chanson d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Le glyphosate doit-il être interdit en Europe ? La question se pose alors que les révélations se multiplient sur la manipulation par Monsanto des études scientifiques. L'Union européenne, elle, n'a toujours pas tranché. La licence de cet herbicide expire pourtant à la fin de l'année. Et malgré la polémique sur la dangerosité du pesticide, la Commission a proposé de la renouveler pour une période de 10 ans. Une réunion du comité d'experts s'est ouverte ce jeudi à Bruxelles, avec un vote normalement autour du 23 octobre. La France, l'Italie et l'Autriche ont d'ores et déjà annoncé qu'elles refuseraient toute nouvelle autorisation. Et dans le même temps, une initiative citoyenne européenne a été lancée en février contre le glyphosate. Elle a recueilli déjà plus d'un million de signatures. Alors, cela peut-il changer la donne? À Bruxelles, Laxmi Lotha.
Ils sont 1 300 000 à avoir signé la pétition Stop Glyphosate pour l'instant. Un texte soutenu par une quarantaine d'associations européennes, environnementales, mais aussi d'agriculteurs. L'initiative citoyenne européenne se veut un outil de démocratie participative. Il permet à ses initiateurs d'être reçus par la Commission européenne et le Parlement si le million de signatures est atteint. Martin Pigeon, de l'Observatoire de l'Europe des entreprises, fait partie des initiateurs du projet. Il explique pourquoi avoir opté pour cette pétition européenne.
Ça permet, disons, d'aider à rendre un sujet visible politiquement. Et c'est la principale raison, en fait, pour laquelle on a lancé cette pétition-là. C'était pour faire quelque chose qui a un peu plus de poids, disons, qu'une pétition classique. Une initiative citoyenne européenne, ça a des conditions qui sont beaucoup plus dures pour signer. Dans beaucoup de pays, il faut donner son numéro de passeport, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de poids. Ça reflète un engagement beaucoup plus substantiel de la part des gens qui signent ça.
Prochaine étape, pouvoir expliquer ses revendications devant l'exécutif européen et le Parlement.
Donc maintenant, on a arrêté les compteurs, on a envoyé les signatures aux États qui les ont validées, et maintenant, tout est en train de revenir à la Commission qui est en train de revalider les validations des États. Et à partir du moment où tout ça est fait, les étapes suivantes du processus s'enclenchent, c'est-à-dire une réunion avec la Commission et une audition au Parlement.
Pour l'eurodéputé vert Bart Staes, cette pétition est utile et peut influencer le débat.
Des pétitions aident, sans aucun doute. Je me souviens le cas des néonicotinoïdes, ce sont des insecticides qui sont très très dangereuses pour les abeilles. Et à ce moment-là, le groupe Avaaz a fait une pétition qui a obtenu plus que 5 millions de signatures. Et là, ça a changé tout le débat dans le Conseil des ministres. Quand on doit prendre des décisions démocratiques, il n'y a pas seulement ce qui se passe au Parlement européen, il n'y a pas seulement ce qui se passe au Conseil des ministres. Les citoyens ont aussi une voix et exprimer cette voix, ça aide toujours.
Les signataires demandent l'interdiction de l'herbicide glyphosate pour ses effets néfastes sur la santé et la biodiversité, mais pas uniquement. Ils souhaitent aussi une réforme de l'homologation des pesticides en Europe et un accompagnement des agriculteurs pour des alternatives au glyphosate. Martin Pigeon de l'Observatoire de l'Europe des entreprises.
Nous demandons que tout ceci s'inscrive dans le cadre d'une démarche plus générale de sortie des pesticides pour l'agriculture. Et donc, ceci nécessite la mise en place de mesures d'accompagnement et de soutien aux agriculteurs, parce qu'on ne peut pas, comme ça, ce qui est le cas aujourd'hui, les laisser dans une alternative qui serait le cancer ou la ruine, par exemple. On ne peut pas les laisser comme ça. Et le glyphosate, c'est un outil très peu cher et très efficace. Ce n'est pas très simple d'arrêter ça. Ce n'est pas très simple de désherber. Disons que ce n'est pas aussi simple de désherber sans glyphosate. Il y a des techniques qui existent dans le bio, mais pas seulement. Simplement, ça demande des apprentissages, ça demande des accompagnements, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et c'est là où la discussion devient à la fois plus compliquée et plus intéressante aussi, c'est que le glyphosate est tellement... c'est une telle pierre angulaire, en fait, du modèle de production agricole aujourd'hui, que quand on touche à ça, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent avec.
L'eurodéputé Europe Écologie, Michel Rivasi, estime que cette pétition est un très bon signal envoyé aux institutions sur la citoyenneté européenne.
Ah ben écoutez, ça a changé certaines choses, puisque maintenant il y a des États qui veulent voter contre, alors qu'au début ils étaient pour. Donc vous voyez que le fait de voter, le fait de signer des pétitions, ça a une importance. C'est très rare, en aussi peu de temps, d'avoir autant de signatures. Ça veut dire qu'il y a une sensibilisation de l'opinion publique en Europe qui est très forte. Et quand je compare par rapport aux États-Unis, je me dis qu'on a des Européens quand même très vigilants.
Depuis 2 ans, les débats sur la dangerosité du glyphosate se multiplient, mais aucune majorité claire ne s'esquisse parmi les États membres, ni pour ni contre une nouvelle autorisation de l'herbicide.
La justice russe l'a condamné fin septembre à 2 ans de prison pour apologie de séparatisme. Ilmi Oumerov est un représentant des Tatars de Crimée. C'est le vice-président du Medjlis, l'assemblée désormais interdite par Moscou. En exprimant son opposition à l'annexion de la Crimée, il a donc été reconnu coupable d'appel public visant à violer l'intégrité territoriale de la Russie. Pour l'ONG Amnesty International, cette condamnation s'inscrit une fois de plus dans une série de procès politiques et d'arrestations arbitraires. Étienne Bouche nous en dit plus.
Il faut forcer la Russie à quitter la péninsule. C'est après avoir prononcé ces mots à la télévision qu'Ilmi Oumerov a été arrêté en mai 2016. Oumerov intervenait sur ATR, la chaîne tatare de Crimée fermée par les autorités russes et qui diffuse désormais depuis Kiev. Il avait alors été interné de force pendant 3 semaines en hôpital psychiatrique. Un épisode qui rappelle de manière troublante une pratique de l'Union soviétique. Ilmi Oumerov a 60 ans. Il est né en Ouzbékistan, conséquence de la déportation des Tatars de Crimée ordonnée par Staline. Revenu sur la péninsule de la mer Noire en 1988, il entre ensuite en politique. Il veut réhabiliter les Tatars. Il occupe d'importantes fonctions au sein du pouvoir local, notamment dans la région de Bakhchissaraï, la capitale historique des Tatars de Crimée. C'est dans cette ville que nous l'avions rencontré 1 an après la prise de contrôle de la péninsule par Moscou. Il évoquait alors des disparitions et les pressions exercées sur la communauté tatare.
Pourquoi la Fédération de Russie a-t-elle besoin d'intimider les Tatars? Parce qu'il s'agit de la seule force politique qui ne reconnaît pas la juridiction russe en Crimée. Nous voulons bénéficier de notre droit à l'autodétermination au sein de l'Ukraine. Pourquoi je ne suis pas parti? J'aurais pu partir, j'aurais pu me trouver un bon travail, mais nous ne sommes pas rentrés d'exil pour repartir maintenant.
Ilmi Oumerov a donc été condamné à 2 ans de prison pour apologie du séparatisme. Son avocat proteste autant qu'il s'inquiète. Oumerov souffre de diabète et de la maladie de Parkinson. Il reste pour l'heure en liberté jusqu'à l'examen de son appel par la Cour suprême de Crimée.
En début de semaine, le gouvernement français a dévoilé le calendrier de la hausse des prix du tabac. D'ici 3 ans, le prix des paquets de cigarettes passera à 10 euros, contre environ 7 actuellement. Même punition pour le tabac à rouler et les cigarillos. Il faut dire qu'en dépit de toutes les mesures adoptées depuis près de 30 ans maintenant, la France reste en Europe un pays où l'on fume beaucoup. Alors avec Daniel Vigneron, nous allons voir quel est le bilan européen de toutes les politiques anti-tabac. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors, la cigarette est-elle trop bon marché en France ?
Si l'on se réfère aux prix pratiqués ailleurs dans l'Union européenne, on ne peut pas le dire, Catherine. À 7 euros le paquet de Marlboro actuellement, la France se classe 3e sur 28 sur l'échelle des prix. Seuls l'Irlande et le Royaume-Uni vendant sensiblement plus cher ce paquet, respectivement à 11 et 10,20 euros. Les prix sont donc plus élevés en France que dans 25 pays de l'Union. Il se situe à 6 euros en Allemagne, Belgique ou Scandinavie, 5 en Italie ou Espagne, autour de 3,5 euros dans beaucoup de pays d'Europe centrale et jusqu'à 2,6 euros en Bulgarie.
La France devrait donc se classer honorablement dans le classement européen avec une baisse du nombre de fumeurs, mais ce n'est pas le cas.
En se référant à l'eurobaromètre triennal sur le tabac publié par la Commission européenne en 2017, on doit malheureusement constater que ce n'est absolument pas le cas. La France est au contraire très mal classée en matière de pourcentage de fumeurs. Il représente en effet 36% de la population en France et seule la Grèce fait pire avec 37%.
Alors, le nombre de fumeurs a même augmenté en France, hein, malgré les politiques de santé publique successives.
Hélas oui Catherine, le nombre de fumeurs est en augmentation depuis 2012, année où la France ne comptait plus que 28% de fumeurs. Cela représente 30% de fumeurs en plus en 5 ans. À part la Slovénie, c'est en France que l'accroissement des fumeurs depuis 10 ans, qui concerne seulement 5 pays sur 28, est la plus forte. Pour ne prendre que nos grands voisins, le nombre de fumeurs a diminué en 10 ans d'environ 20% en Allemagne, Espagne et Italie, et il a pratiquement été divisé par 2 au Royaume-Uni.
Alors, Daniel, comment s'explique cette très mauvaise performance de la France ?
Oui, elle est assez singulière compte tenu des prix en hausse et relativement élevés, de la multiplication des campagnes anti-tabac et du respect assez général de l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou de travail. En outre, l'usage de la cigarette électronique, 4% de la population, est deux fois plus répandu en France par rapport à la moyenne européenne. Alors, pour expliquer le tabagisme invétéré des Français, on peut avancer d'abord une explication historique dans la mesure où l'usage du tabac a toujours été très prégnant en France. Ainsi, le pays est de toute l'Union européenne celui où le nombre de personnes déclarant n'avoir jamais fumé est le plus faible, 42%. Autre facteur explicatif, le fait que, en moyenne, les fumeurs consomment quotidiennement un peu moins de cigarettes en France que la moyenne européenne, 12,6 contre 14 cigarettes dans l'Union et par exemple 15 en Allemagne. Bref, plus de Français fument, mais ils fument moins que les autres. Mais surtout, il semble que le tabagisme des jeunes explique pour une bonne part les mauvaises performances françaises.
Et oui, hein, Daniel, hein, les jeunes Français fument plus que leurs voisins.
24% des jeunes Français de 15 à 24 ans sont fumeurs et 20% des jeunes Françaises. Or, la moyenne européenne est bien inférieure, 17 et 13%. À cela s'ajoute un facteur démographique puisque cette classe d'âge représente 12% de la population française contre 10% en Italie et 6,5% en Allemagne. Par ailleurs, on sait que les jeunes consomment plus, pour des raisons de prix, les cigarettes à rouler. Alors que 29% des fumeurs européens ont recours régulièrement ou occasionnellement à ce tabac en vrac, les fumeurs français sont 38% à l'utiliser avec une forte prévalence des moins de 25 ans. À noter que cette proportion est en baisse, ce qui est peut-être le résultat de la hausse de 15% du prix du tabac à rouler décidé l'an dernier.
Donc, hein, Daniel, on peut dire que les politiques anti-tabac doivent continuer à cibler les jeunes, tout particulièrement en France.
Oui, et notamment à travers la hausse des prix qui a un impact plus marqué sur la consommation des jeunes. On a pu le constater au début des années 2000 en France. Les prix du tabac ont connu une hausse de 40% en 2003 et 2004 et l'on a observé un an plus tard une baisse de 8% de la consommation des 15-25 ans. La hausse de même ampleur qui vient d'être annoncée d'ici à 2020 vise à l'évidence un impact de cette nature.
C'était Daniel Vigneron de MyEurope.info. À la semaine prochaine, Daniel.
À bientôt, Catherine.
C'est l'une des activités les plus prisées d'Islande, l'observation des baleines. Chaque année, les touristes sont de plus en plus nombreux, 350 000 l'an dernier. Des touristes qui prennent le large le temps d'une matinée dans les eaux islandaises pour tenter d'apercevoir les mammifères marins dans leur habitat naturel. Des touristes partagés aussi entre curiosité écologique et gastronomie, car on mange encore du cétacé sur l'île. Reportage à Reykjavik, Jérémy Richard.
De la baleine de main qui se donne en spectacle, on ne distingue que sa fine nageoire dorsale au moment où elle remonte à la surface pour respirer. L'apparition est furtive, mais suffisante pour que la foule laisse éclater sa joie. Joachim Holm, un touriste suédois, en fait partie.
C'est l'une des choses que nous voulions absolument faire en venant pour la première fois en Islande. Nous avons peu d'autres occasions de voir des baleines en vrai, donc c'est une belle opportunité.
La baie de Faxaflói, bordant toute la côte ouest de l'Islande et accessible depuis Reykjavik, la capitale, est l'endroit idéal pour tenter d'apercevoir des baleines de minke en mer. On estime qu'il y en aurait 32 000 en Atlantique Nord. Paradoxe, c'est dans cette même baie qu'on chasse le cétacé. Plus de pêche au Orcal depuis 2 ans pour des raisons commerciales avec le principal acheteur, le Japon. La baleine de minke, en revanche, n'est ni protégée, contrairement aux souhaits des écologistes, ni en voie d'extinction. Suzanne Rendall, une touriste originaire de l'Ontario au Canada, n'est pas tout à fait à l'aise.
Je comprends que pour une culture indigène comme celle des Groenlandais ou des Islandais, ça fait partie de leur alimentation et de leur culture, mais j'ai des difficultés autrement car je ne crois pas à la chasse à la baleine.
Rien de choquant en revanche pour Gunnar Jonsson, il est le directeur général de Ipi Utkerth Limited, l'une des deux entreprises de pêche sur l'île.
Je peux comprendre que des gens aient des sentiments pour les baleines comme pour d'autres animaux. Pour eux, la chasse à la baleine sera toujours un problème. Mais ils devraient simplement essayer de faire preuve d'un peu plus d'ouverture d'esprit. La baleine de minke n'est pas une espèce menacée. Ça aussi, c'est à prendre en considération.
Sa société a pêché 17 baleines de minke cette année, bien en deçà des 224 prises qu'autorisent les quotas. On est loin aussi des 46 animaux tués l'an passé, un record ces dernières années. Mais la météo, notamment, a été un peu plus capricieuse cet été. Le marché reste juteux si la quantité pêchée n'a pas beaucoup augmenté en 10 ans, et ce malgré l'interdiction en 1986 de la chasse commerciale par la Commission baleinière internationale. Le prix a lui plus que doublé et se situe autour de 20 euros le kilo. 65% de la viande alimente la cinquantaine de restaurants locaux, le reste part dans les supermarchés du pays. C'est le cas de l'établissement Fréjfarkar à Reykjavik qui en propose au menu depuis son ouverture en 1989 et en achète environ une tonne par an. Sarah Krieger est une touriste américaine et va se laisser tenter.
Les humains sont au sommet de la chaîne alimentaire. Tant que nous nous comportons de manière responsable avec les animaux et que nous ne mangeons qu'une viande de qualité, alors il n'y a pas de problème.
Les touristes sont moins nombreux à manger de la baleine durant leur séjour en Islande, de 40% en 2009. La proportion est tombée à 12% l'an dernier, selon l'International Fund for Animal Welfare. Quant aux Islandais, ils sont à peine 1,5% à dire en acheter 6 fois ou plus au cours de l'année 2016. Sigursteinn Mausson est le représentant de l'organisation non gouvernementale sur l'île.
Certaines personnes ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et profitent juste du moment présent. Quand vous êtes touriste dans certains pays, vous essayez d'expérimenter des choses que vous ne pouvez pas faire chez vous.
Une pétition signée par près de 50 000 personnes a été remise au ministère des Pêcheries il y a quelques semaines pour permettre la création d'un sanctuaire à baleines dans la baie de Faxaflói. Sigursteinn Mausson a bon espoir que cette pétition sonne le glas de la pêche aux cétacés dans cette zone.
Je pense que nous avons sifflé la fin de la partie. La chasse à la baleine en Islande, une saga vieille de plus de 400 ans, va prendre fin. Même si la décision politique ne sera pas prise officiellement avant 2019-2020, de facto, ce sera fini l'an prochain.
Si c'est le cas, ce serait la fin d'une tradition islandaise qui remonte à plus de 8 siècles.
Avant de se quitter, Anne Andlauer nous emmène dans un ancien dépôt de tabac d'Istanbul. La galerie Dépôt est devenue en quelques années une institution de la vie culturelle locale. Son courage est salué à chacune de ses expositions. Courage politique d'aborder des thèmes que les autres galeries ignorent. Courage artistique aussi de présenter des artistes turcs peu connus, voire jamais exposés, comme c'est le cas en cette rentrée.
C'est un endroit unique en son genre et précurseur à Istanbul et en Turquie. Dépôt n'est pas un musée, pas tout à fait une galerie non plus. Centre culturel est trop vague, espace de débat incomplet. Physiquement par contre, il est simple à décrire. C'est un cube de 4 étages où tout est net et droit, des lames du plancher en bois, aux poutres du plafond, des colonnes blanches qui parcourent les salles aux murs blancs. Depuis sa première exposition en janvier 2009, Dépôt détonne. On y montre des photos, des vidéos jamais vues en Turquie. On y parle de sujets très rarement évoqués, douloureux, voire tabous. Et politiques, toujours, même sans en avoir l'air. Les expositions qu'il accueille et les débats et conférences qui les accompagnent toujours traitent des droits de l'homme, des minorités, des mouvements sociétaux, des transformations urbaines, des politiques de la mémoire et très souvent des chapitres de l'histoire que beaucoup de Turcs ignorent ou préfèrent ignorer. Le génocide arménien, les minorités expulsées au cours du XXe siècle, la situation des Kurdes aujourd'hui ont tous trouvé un espace d'expression et des oreilles attentives dans les murs de Dépôt, qui n'est pas pour autant un lieu confidentiel. Les vernissages de ces expos sont toujours très courus et arrosés d'alcool, ce qui est de plus en plus rare dans la Turquie actuelle. L'endroit a l'avantage d'être très bien situé, pas très loin de Taksim et de Galata, à 2 pas du Bosphore et d'une ligne de tramway. Quand Dépôt accueille des artistes, ils sont toujours contemporains et questionnent la Turquie, son passé et son avenir. En cette rentrée culturelle, la galerie présente ainsi les œuvres que des artistes ont conservées dans leur studio ou chez eux sans jamais les montrer au public. Certains jeunes n'ont même jamais exposé, d'autres plus âgés sont renommés, avec l'espoir toujours de créer des rencontres, des débats et peut-être des collaborations.
Françoise Grelot était à la réalisation d'Accent d'Europe. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants. Les infos.